Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Buitoni, Kinder, mais aussi des fromages contaminés à la listériose. Les intoxications alimentaires se multiplient avec malheureusement 2 enfants morts et des dizaines d'hospitalisations. L'Info C'est Clair est intitulé Kinder, Buitoni, fromage, danger dans nos assiettes. Nos invités, Pascale Hébel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc, auteur de La révolte des moutons, Les consommateurs au pouvoir, c'est aux éditions Autrement. Faïza Bossi, vous êtes médecin généraliste nutritionniste. Bonjour. Et dans quelques minutes, la chaise libre là-bas, c'est Frédéric Danhé qui va nous rejoindre. On parlait donc des œufs de Pâques de la marque Kinder, sont-ils contaminés à la salmonelle? Eh bien, dans le doute, le géant italien Ferrero a dû retirer de la vente des tonnes de chocolat, et ce, dans plusieurs pays européens. Et il a dû retirer le fameux Kinder Surprise, et alors que nous sommes à 10 jours de Pâques, c'est évidemment une catastrophe pour les ventes. Sujet de Florence Mathieu et Carole Sins.
Ils sont encore présents dans certains rayons de supermarchés et peut-être dans vos placards. Mais prudence, plusieurs produits Kinder ne doivent pas être consommés. Ferrero rappelle certains de ces chocolats pour des suspicions de salmonelle. Il s'agit des Kinder Surprise avec des dates de péremption comprises entre juin et octobre. Des Kinder Chocobons, consommables avant fin août, mais aussi ces petits œufs, les Kinder Eggs, et des boîtes mélangeant plusieurs produits. En France, 21 malades ont été signalés, 8 hospitalisés, principalement de très jeunes enfants. Tous avaient consommé des produits Kinder fabriqués dans l'usine d'Arlon, en Belgique.
Alors Faïza Bossi, d'abord, quels sont les symptômes de la salmonelle?
Alors la salmonellose, dans sa forme mineure, elle va être à l'origine de diarrhées de type hydrique. Ça veut dire qu'on va avoir donc des selles qui sont liquides, accompagnées de douleurs abdominales, d'un syndrome fébrile. Ça, c'est ce que l'on retrouve de façon la plus classique. Globalement, je comparerais ça à la fameuse tourista du voyageur. Et c'est d'ailleurs une des bactéries la plus responsable de gastro-entérite après le campylobactère. Voilà les symptômes.
Ah, c'est une forme de gastro-entérite, en fait.
Oui, tout à fait. Ça, c'est les symptômes chez un sujet immunocompétent qui va bien.
Pourquoi ça semble s'attaquer aux enfants plus qu'aux adultes?
Alors, chez l'enfant, la forme est la même que chez l'adulte, mais avec une gravité qui est celle de, je vous l'ai dit, c'est une diarrhée hydrique. Donc, vous perdez de l'eau et des électrolytes. Et donc, chez l'enfant, ça va plus vite et le risque, c'est la déshydratation. Donc, c'est pour ça qu'on a des formes plus sévères chez l'enfant, chez les nourrissons en particulier. Et il peut y aussi avoir, chez des patients vulnérables, des formes extra-digestives, donc pas digestives, hein, cardiaques, au niveau de la vésicule, etc. Mais chez l'enfant, ça peut prendre une forme plus sévère, compte tenu du fait de la déshydratation rapide.
D'accord. Comment se fait-il? On se dit, là, c'est cuit, c'est du chocolat cuit, qui est isolé. Enfin bref, comment se fait-il qu'une bactérie qui est quelque chose de vivant parvienne à survivre dans ces œufs qui sont exposés dans des rayons des supermarchés?
Alors, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des contaminations aux différentes formes de chaînes de régulation de l'alimentation. On retrouve en effet la présence de ces bactéries sur différents supports. En général, ça va être les viandes, les poissons, les produits laitiers, etc. Mais vous en retrouvez aussi sur des produits lactés et peu riches en eau, comme le chocolat, parce que sûrement sur la chaîne, cet aliment a été souillé. Et donc, comme c'est un produit qui va se diffuser à large spectre par la consommation, là, on se retrouve dans ce système de petite épidémie.
Et donc là, on a fait une enquête et on s'est aperçu qu'il y a eu des dizaines d'enfants hospitalisés. Fort heureusement, je crois qu'ils sont sortis.
Hein.
Et on s'est rendu compte qu'ils avaient... Comment ça se passe? Une enquête de police pour remonter à Ferrero et à...
Alors oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la salmonellose, comme la listériose, ce sont des maladies à déclaration obligatoire.
L'enfant va à l'hôpital, voilà. On est obligé de déclarer.
On recherche savoir quelle est la bactérie en faisant des tests comme des coprocultures et des parasitologies des selles. Et puis, on va le déclarer à l'Agence régionale de santé. Il y a une vraie veille sanitaire française hein, tous les ans sur ce type de bactéries, ce qui nous permet de tracer. Et puis aussi, les entreprises agroalimentaires ont le devoir de traçabilité par rapport à ces produits. Donc on arrive comme ça à remonter la chaîne.
Et alors on est remonté, Pascale Hébel, à Ferrero et à une usine belge. Alors pas de chance, elle alimentait plusieurs pays, hein, je crois, la France, l'Irlande, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède. C'est une catastrophe, là, quand même, on se rend compte.
C'est vraiment une catastrophe, parce que c'est vraiment le moment de Pâques. Hein, donc là, pour cette entreprise-là, c'est catastrophique, parce qu'en fait, quand il y a une suspicion, en fait, il y a en effet le lot qui est repéré, donc c'est la DGCCRF qui va remonter, on va trouver exactement le lot. Mais là, comme ça, c'est dans l'usine, il y a plusieurs lots, et donc là, on voit bien qu'on a même enlevé plus que ce qu'il faut. C'est vraiment le principe de précaution pour qu'il y ait vraiment peu de risques pour les enfants. Et puis là, ça va vraiment faire une mauvaise image pour la marque, puisque c'est la période de Pâques. Hein, donc.
Alors c'est 10%, je pensais même que c'était plus hein, pour Ferrero. La semaine de Pâques, c'est 10%. On peut penser que dans le doute, tout ce qui s'appelle Ferrero, tout ce qui s'appelle Kinder, ne pas être dans la liste.
Et parce que ce qui fait le gros des ventes, c'est Nutella. En fait, c'est Nutella. Mmh. Et ça risque aussi d'aller sur ce type de produit. Donc, en effet, la marque, elle est très, très bien. En fait, hein, ça marchait fortement avec le Covid, etc. Donc là, oui, c'est pour la marque. C'est pour ça que finalement... C'est pour ça que les entreprises ont mis en place tout un tas de... C'est venu d'eux et des pouvoirs publics, mais c'est eux qui ont mis en place des contrôles parce que les crises peuvent faire chuter très fortement les ventes.
Faïza Boussi, franchement, si vous avez à la maison un Kinder Surprise...
Je n'ai pas.
Vous le jetez à la poubelle ou vous dites, bon, allez, mange-le. Et franchement, il n'y a pas eu de mort, hein, je
précise. Tout à fait. Non, ce qu'il faut bien rappeler quand même, c'est que les formes graves et sévères sont très rares. Il faut quand même éloigner ça, d'éliminer un petit peu ce côté anxiogène, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai, comme disait madame, il y a ce principe de vigilance et de précaution qui est à respecter. Moi, je milite toujours pour une alimentation qui soit la moins transformée possible, voilà, de faire confiance à ses artisans, etc.
Mais là, vous trouvez, bon, franchement, c'est le principe de précaution appliqué de façon...
Il est nécessaire.
Quand on retire partout en Europe des tonnes et des tonnes de chocolat... qu'on va incinérer, j'imagine. Hein,
J'en conviens bien, mais il est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se dire « bon bah, c'est quelques lots, on les met de côté et puis on ne dit rien ». Ça fait partie de la veille sanitaire classique.
Ça fait partie de la veille sanitaire classique. Frédéric Danhé, vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales, un poil en retard. Mais
je suis désolé, le RERD.
Le RERD, auteur d'Acheter Bio, à qui faire confiance, c'est chez Albin Michel. On parlait de cette politique de rappel. Est-ce que dans notre enfance, on faisait aussi attention? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ces rappels, où partout en Europe, allez hop, il y a un lot suspect, on met à la benne des tonnes et des tonnes et des tonnes de chocolat?
Ah, c'est très nouveau, c'est la crise de la vache folle qui a été, d'un point de vue anthropologique, un syndrome absolu en Europe. Pour ce bouquin, je suis allé dans les statistiques du ministère de la Santé. En 1950, il y a eu 15 000 morts en France d'infections alimentaires.
15 000 morts en France.
Oui, il y a un siècle, la contamination de la nourriture était une des principales causes de mortalité, de maladies chroniques en France. Donc on était à 15 000 en 1950, aujourd'hui on doit être à 450 cas par an, dont la moitié liée au non-respect des dates limites de consommation dans le frigidaire des ménages. Et donc, ce qu'on a là, c'est malheureux pour ces deux enfants qui sont morts. Mais
alors, c'est pour Buitoni. Hein.
Là, c'est pour Buitoni, pardon.
On va parler de Buitoni. Là, on était sur Kinder.
Non, c'est... Alors du coup, maintenant, c'est... Les entreprises, au départ, ont renaclé à l'idée de faire des autocontrôles et de retirer des produits. Elles pensaient que ça allait nuire à leur image. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
Ah bon ?
Avec ça, aujourd'hui... On peut dire, bah regardez, je suis un industriel responsable, j'ai tout mis à la poubelle parce que ce qui compte avant tout, pour moi, c'est la santé. Bon, après, la qualité nutritionnelle des produits, on peut se demander si elle ne va pas nuire à la santé sur le long terme, mais ça, c'est un autre problème. C'est du marketing. Pour moi, c'est un peu excessif. C'est comme pour la grippe aviaire, c'est pareil. On cherche le risque zéro qui n'existe pas. Même l'industrie aseptisée, pasteurisée, elle est confrontée aux vivants.
Est-ce que Pascal Hébel, d'ailleurs... intrinsèquement, on se dit, bon, peut-être qu'ils en font un peu trop. La preuve, vous disiez, les intoxications alimentaires, elles viennent du fait qu'on ne respecte pas ou peu les dates limites de consommation. C'est vrai qu'on les respecte pas ou peu. On se dit, ils font tellement attention, c'est tellement ceinture et bretelles que si c'est dépassé 3 jours, je vais pas en mourir pour du jambon, non?
Alors, ça dépend vraiment des produits. C'est vrai que quand on essaye de lutter contre le gaspillage alimentaire, on essaye aussi d'éduquer les consommateurs à pas trop jeter. Parce qu'il y a aussi ce biais-là, on jette des kilos à cause de ces DLC. Et ça, il faut en effet savoir sur quels produits. Donc c'est en effet tous les produits type produits laitiers, tous les produits avec des œufs, hein, les mayonnaises, etc. Où il faut respecter les crèmes fraîches, il faut respecter les dates limites. Mais il y a des produits vivants comme le fromage, comme les yaourts, où là, on sait qu'on a mis des dates limites de consommation qui sont simplement liées au fait que le produit est moins bon au goût, mais qu'on peut les consommer plus longtemps. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment, mais c'est vraiment depuis la crise de la vache folle où on a abattu aussi tous les élevages, parce que quand c'est comme sur le Covid, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas la maladie, et la crise de la vache folle, c'était ça, c'était une maladie inconnue, on a été obligé, et c'était un scandale qui, finalement, a permis de mettre en place toutes ces chaînes qui permettent de retrouver les produits.
On a un petit sujet sur la crise de la vache folle qui va nous replonger donc à ce qui fut l'origine du scandale alimentaire. Juste un mot, Faïza Bouzi, parce que Pascal Ebel parlait des fromages. Il y a aussi 6 fromages qui viennent d'être tirés. Alors là, on n'est pas des spécialistes. Autant en Covid, on a fait beaucoup de progrès en coronavirus. Alors, pour la marque Kinder, pour les chocolats, ce sont des salmonelles. Et là, pour les fromages,
c'est la
listeria. Alors, c'est quoi la différence?
Alors, ce sont toutes les deux des bactéries, mais ce sont des bactéries qui ont des propriétés sur le plan organique qui sont différentes. Donc la salmonellose, comme je vous l'ai dit, ça va donner des fameuses diarrhées hydriques, quelquefois des formes extra-digestives. La listériose, elle donne aussi la fameuse gastro-entérite chez le sujet immunocompétent, mais elle a des formes graves, et notamment au niveau des méninges et au niveau, par exemple, chez la femme enceinte. Hein, une femme enceinte, on lui dira toujours d'éviter de manger des produits à base de produits crus, voilà, exactement, pour éviter justement la listériose, parce que ça peut être un risque de perdre son enfant, un avortement, fausse couche, ou de malformation néonatale. Donc ça donne des formes sévères, graves, la listériose, qu'on ne retrouve pas dans la salmonellose, d'accord, par exemple.
Mais là aussi, vous diriez finalement, heureusement qu'il y a ces vigilances, parce qu'autrefois, il y avait beaucoup plus d'enfants ou de bébés victimes la listeria, et aujourd'hui, parce qu'on fait attention, parce qu'il y a des contrôles, on réduit les risques.
Vous l'aviez dit une fois sur un reportage pour le Covid, on est rentré un peu dans une phase d'hyper-hygiénisme. C'est un petit peu le cas aujourd'hui. Hein. On est dans une phase d'hyper-hygiénisme, voire même sur le plan alimentaire, on parle d'orthorexie avec des gens qui véritablement contrôlent les aliments l'un par un, les dates de péremption, etc. Bon, le risque zéro n'existe pas. On est confronté au vivant, vous l'avez dit à juste titre. Voilà, il y a des principes de précaution et d'hygiène qu'il faut néanmoins respecter.
Alors, là où il y a eu 2 morts, c'est la bactérie
Escherichia
coli, qui a été retrouvée dans 2 pizzas congelées de la marque Buitoni, à tel point que l'usine Buitoni dans le Nord a dû être fermée. Vous voyez ce sujet de Séverine Laroui.
Des lignes de production à l'arrêt, sur décision préfectorale. Cette usine Buitoni dans le nord de la France ne produit plus de pizza depuis le 1er avril. Les inspections sanitaires y ont révélé de graves manquements à l'hygiène alimentaire.
Présence de rongeurs, manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication, absence de revêtements lisses et facilement nettoyables, extraction d'air insuffisante.
En cause, cette bactérie, l'Escherichia coli. 58 enfants sont tombés malades, dont 2 sont décédés après avoir ingéré une pizza Buitoni. L'usine du groupe Nestlé affirme pourtant réaliser chaque semaine plus de 10 000 autocontrôles. Une procédure aujourd'hui remise en question par les associations de consommateurs.
Et donc la Faïza Bouzi, c'est une troisième bactérie, Escherichia coli, mais qui est plus dangereuse que la salmonelle et encore plus...
Je veux dire que le niveau de dangerosité d'une bactérie, elle a 2 caractéristiques. D'abord, la nature de l'hôte. On est tous différents autour de cette table. Et puis, quel est le type de la bactérie? L'Escherichia coli, c'est une bactérie qu'on connaît très bien en médecine, puisqu'elle est responsable la majorité du temps des fameuses infections urinaires chez la femme et chez l'homme. Mais elle donne aussi des gastro-entérites chez l'immunocompétent. Et elle va donner des formes sévères et graves, notamment chez l'enfant, ce qu'on appelle le CHU, le syndrome hémolytique urémique, et qui peut conduire à une insuffisance rénale chronique sévère où les enfants peuvent se retrouver dialysés. Ouais. Oui, au décès. C'est très très rare, soyons clairs là-dessus, mais ça dépend de l'hôte.
Et là aussi, Frédéric Danhé, on est surpris parce qu'on se dit une pizza congelée, comment le vivant peut-il survivre? Congelé, c'est moins 40, non?
Le vivant, il suffit qu'il y ait une petite souche et dès lors que l'eau revient par le dégel, elle profite de l'eau et elle se met à pulluler, raison pour laquelle il ne faut jamais recongeler un produit qui a été décongelé, parce que si vous faites une succession de congélation-décongélation, en fait, ces bactéries, vous ne faites que les encourager à pulluler. Derrière tout ça, il y avait une manière simple, et je suis désolé de le dire, c'est de cuire correctement les pizzas, mais on a oublié ça, c'est-à-dire que
on la cuit bien
à 70 degrés à cœur, comme toutes les pâtes. En fait, c'est l'eau qui contient les bactéries, l'eau qui est dans la pâte. Et si vous ne la cuisez pas tout de suite en sortant du congélateur directement au four, avec 70 degrés à cœur, c'est-à-dire 180-200 degrés à un quart d'heure, 20 minutes, La pizza risque de ne pas avoir effectivement éliminé, si j'ose dire, ces bactéries. Il ne faut pas croire que parce qu'on est sur une logique d'aseptisation, on va détourner les virus et les bactéries. Je reprends l'exemple de la listeria. La listeria a moins de chances d'occuper un fromage au lait cru parce que le fromage au lait cru, c'est déjà un écosystème bactérien. Alors que la listeria qui se pose sur un camembert pasteurisé, ça, c'est tout bénéfice pour lui. Il n'y aura aucune conséquence, aucune concurrence écologique. Donc la pasteurisation, l'hygiénisation n'empêche pas d'avoir des bactéries et des virus. Et en tout cas, derrière tout ça, un produit surgelé, il faut le rappeler aux gens, ça doit être cuit et archi-cuit. Mmh.
Pascal Hébel, tout à l'heure, Frédéric Denré disait finalement, cette politique de rappel, elle montre le sérieux de la marque qui privilégie la santé de ses consommateurs avant les ventes. Il n'empêche là pour Buitoni, est-ce qu'il n'y a pas des marques quand même qui ressortent cabossées et dont on ne veut plus entendre parler suite à... Quand on se dit, on ne prend pas le risque, quoi. Surtout pour une pizza congelée, il y a d'autres marques.
Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qui s'est passé à la fois pour la crise de la vache folle, mais on a eu aussi sur des steaks hachés. Chez Lidl, c'était une marque fournisseur. L'entreprise est ferme, en fait. Hein. Ouais. Et sur la crise de la vache folle, ça a été pareil. Hein. Spanghero, ils ont tout fermé. Enfin, il a fallu renommer la marque.
Ça, c'était les lasagnes.
Les lasagnes avec de la viande. Alors, c'est ça que
c'était sous la marque Findus, tiens, on va le voir. Ouais. Les ventes en avaient pâti ou pas ?
Ah oui, non, bien sûr. C'est-à-dire que même Picard, etc., pendant 4 ans, le surgelé a baissé. C'est-à-dire que c'est vraiment sur le surgelé, donc c'était des steaks hachés surgelés, où en effet, il y a tous ces risques qui sont beaucoup plus forts. Et finalement, en fait, sur la crise de la fraude de la viande de cheval, il n'y avait aucun risque, parce que là, c'était juste du cheval à la place du bœuf. Mais c'est parce que ça fait revivre cette émotion collective de la crise de la vache folle.
On nous ment sur l'étiquette, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, la traçabilité
n'est pas assurée. À ce moment-là, on était dans une période, dans les années 95-2000, où tout le monde découvrait à la télé qu'on avait de l'industrie agroalimentaire, et c'est ça qui a été très très violent à l'époque.
Eh ben justement, on est allé rechercher ce document INA de juin 90. C'est le scandale de la vache folle. On s'est rendu compte que ça venait du Royaume-Uni, en cause les farines animal, on s'est rendu compte que les vaches, qui étaient des herbivores, eh bien, on leur faisait manger de la viande. On en avait transfert des carnivores et malheureusement, elles ont développé une maladie qui s'est transmise à l'homme, en tous les cas. On revoit ce sujet de juin 90. On découvrait la maladie de la vache folle.
L'encéphalite bovine spongiforme a fait son apparition en Grande-Bretagne en 86. Elle provoque une dégénérescence rapide et mortelle du cerveau des animaux malades. 14 000 têtes ont déjà dû être abattues outre-Manche. La panique a commencé à s'emparer des consommateurs lorsqu'un chat a présenté les mêmes symptômes. Si la maladie peut se transmettre à d'autres espèces, l'homme peut-il la contracter ? Personne n'est encore apte à répondre. Mais pour éviter une contamination du cheptel français et l'inquiétude des consommateurs, le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, suspend unilatéralement les importations de viande de bœuf britannique.
Pascal Hébel, il y a eu un avant et un après.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment eu des morts, hein. Il y a eu des dizaines de morts, hein, à ce moment-là. Donc, en effet, ça a été un traumatisme parce qu'on avait industrialisé l'agriculture, la production de volailles, par exemple. Et ensuite, il y a eu la crise de la dioxine. Donc, on a vu à la télévision la réalité, en fait, de l'agriculture. Des choses qu'on nous avait un peu cachées. Hein. C'était quand même vivons cachés, vivons haut, hein, l'industrie agroalimentaire. Et donc, c'était une boîte noire et on faisait découvrir aux consommateurs qu'il y avait de l'agronomie où on modifiait un peu la biologie. Après, on a été contre les OGM. En fait, tout ça a provoqué un choc qui est très philosophique. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas qu'on modifiait la nature. Et donc, on a eu cette réaction plus forte en France, hein, d'ailleurs. Hein, en fait, ça se mesure, la crise, sur la baisse de la consommation de viande. Là, c'est de la viande de bœuf. Et finalement, on a mis 5 ans avant de retrouver les mêmes niveaux, en plus d'avoir détruit des cheptels.
Et la viande de bœuf, la viande rouge, on a durablement souffert d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, la viande blanche a plus la cote, non ?
Oui, alors c'est vraiment, on voit bien que les crises, parce que les Escherichia coli, on a eu une crise sur un produit bio, on n'en a pas entendu parler. Il y a eu 35 morts au niveau européen, 50 des dialysés. Et quand le produit a un affectif très fort, donc en fait le rouge, ça fait peur, c'est la violence. Donc en effet, de la viande rouge, c'est un aliment qu'on a toujours critiqué. La viande blanche, beaucoup moins, quand c'est de la volaille. Et puis, un produit comme le bio, on ne pouvait pas imaginer. Et donc, cette crise est chérie chez Acoli, on n'a pas parlé à l'époque, en 2011.
Faïsa Boussi, parce qu'elle est belle, dit bah là, on a ouvert la porte de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que c'était un crime contre nature? On a vu qu'on, comme je le disais, on avait transformé les vaches, qui étaient les herbivores, en carnivores. Ça a été ça, le début de... Est-ce qu'on a su le fin mot de l'histoire de cette crise de la vache folle?
Alors, plus ou moins, vivons heureux, vivons cachés. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un rapport en France, on a une culture culinaire quand même qui est assez extraordinaire, mais on a aussi une idéalisation par rapport à ce qui arrive dans nos assiettes. C'est-à-dire que, globalement, ce côté potager,
la
nature...
La ferme de Martine.
Voilà, la ferme de Martine, si vous voulez. On est quand même loin de ça sur le plan agroalimentaire. Ce sont des produits transformés, ultra transformés, dont on ne sait pas foncièrement comment ça fonctionne. Donc oui, quand la porte a été ouverte, on s'est rendu compte que c'est quand même contre nature de se dire que je vais nourrir une vache avec des produits carnés.
Avec de la viande.
C'est quand même très étrange. Enfin, c'est contre nature. Donc oui, cette perception provoque véritablement une onde de choc et une espèce de dégoût quand même. On se dit, mais je ne peux pas consommer ça, c'est pas possible.
Frédéric Danhé.
Alors, on a eu honte de nous-mêmes parce qu'on a abandonné à partir des années 60 la confection de ce que l'on ingère à d'autres. Parce que ça nous arrangeait, ça nous faisait, pour les ménagères, je me souviens de ce que me disait ma grand-mère, elle, les plats préparés, les supermarchés, c'était une libération en termes de temps. Et puis mes grands-parents avaient la mémoire d'infections alimentaires à Caudry, justement, là où est cette usine Buitoni.
Parce que vous êtes du coin.
Moi, je suis du coin, et l'usine, je l'ai vue, je pourrais vous en parler, mais sans preuve, donc je ne vous en parlerai pas. Mais on a abandonné la confection de notre nourriture à une industrie agroalimentaire qui nous a fait une promesse, c'est la santé, justement plus d'intoxication alimentaire. Et là, la promesse a été rompue sur un aliment extrêmement symbolique. La France, c'est l'élevage. L'élevage, c'est la vache, c'est la viande, etc. On est ce que l'on mange en France. Et là, finalement, on a eu honte de ce que l'on mangeait parce que ce que l'on mangeait a été sali.
Souillé.
Souillé, vraiment, souillé à tous les sens du terme. Et d'ailleurs, juste une incise, dans mon enquête, j'ai interviewé une anthropologue qui a travaillé là-dessus. Et la façon dont la France est sortie de la crise, c'est par les bouchers. Parce que les bouchers connaissaient leurs élevages. Les bouchers étaient capables d'éclairer le chemin vers la bonne nourriture dans cette boîte noire qui était devenue l'alimentation.
Et c'est vrai qu'on en découvre chaque jour un peu plus sur cette face cachée de l'agro-business, hein, de l'industrie agroalimentaire. Écoutez, témoignage, hier, il y avait dans le journal de 20h, un reportage sur le prix des œufs qui a augmenté. Au détour de ce reportage de Paul-Luc Monnier, j'ai découvert, vous allez me dire que je découvre la Lune, j'ai découvert le concept d'œufs recomposés, d'œufs recombinés. On va écouter cet industriel qui nous explique très tranquillement comment une machine sépare le blanc du jaune de l'œuf. On regarde.
Les œufs arrivent sur un convoyeur, puis sont pris sur un système de pinces. Ces œufs, ensuite, derrière, sont séparés, le jaune d'un côté, le blanc de l'autre.
Et maintenant, très tranquillement, on a un pâtissier qui sort ses deux bidons, très fier. Un bidon de jaune, un bidon de blanc, et après, il va nous faire des gâteaux, on regarde.
Vous avez du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, c'est quelque chose qu'on utilise, comme les œufs coquilles. Et aujourd'hui, en 3 mois, ça a augmenté de 11%.
Bon, Pascal est belle, je découvre la Lune, mais on comprend que ça puisse choquer, ça, le bidon de jaune, le bidon de blanc.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment dans la restauration, en fait. On découvre que même un boulanger, il ne fait pas du tout...
Oui. Il n'est pas du tout gêné, d'ailleurs. Hein,
mais... tout vient du surgelé. Enfin, vraiment, y a vraiment une utilisation de produits presque tout prêts pour tous les secteurs, même des petits commerçants qui vous proposent des produits à consommer. Ça facilite, hein, en fait. Oui. Hein, c'est vraiment une question de rendre plus pratique les choses. Et je reviens sur les femmes, c'est vraiment aussi les tâches ménagères ne sont pas partagées et ça a été un grand gain pour les femmes de ne plus avoir à passer des heures et des heures à faire les courses et à préparer à manger.
L'industrie agroalimentaire, évidemment, a libéré du temps.
Voilà, a libéré du temps, a libéré la corvée qui est toujours d'ailleurs concentrée chez les ménagères.
Frédéric Danhé.
Mais là, sur la séparation des œufs, c'est aussi des obligations hygiéniques. Absolument. Que ne veulent plus, enfin, qui sont extrêmement difficiles pour les restaurants. Ils prennent plus aucun risque. Mmh. Ils vont chez les grossistes laryngistes, ils achètent des plats préparés. La plupart des brasseries parisiennes ne sont plus des brasseries. C'est-à-dire que c'est du sous vide. C'est du sous-vide chauffé au micro-ondes. Et puis les œufs, ça fait longtemps qu'ils sont séparés, avant tout pour éviter justement le risque de salmonelle.
Sur le plan nutritionnel, Faïsa Boussi, on a dit que ces plats industriels, ces plats préparés, ça permettait de libérer du temps. Est-ce qu'au fond, avec tous les contrôles qu'il y a, on en a pour notre assiette et pour notre argent, et qu'au fond, On est gagnant.
Je vais répondre à la partie nutritionnelle, après pour l'argent, etc. Ouais. Je laisserai le restaurateur voir. Ce qui est sûr, c'est que, je le dis encore une fois, plus un produit est transformé, et moins sur le plan nutritionnel, il est intéressant.
Mais parce que quand c'est un industriel qui fait des lasagnes, il ne les fait pas comme ma grand-mère.
Alors, je ne sais pas s'il les fait comme votre grand-mère. Ce qui est sûr, c'est que...
Mais ma grand-mère, elle transformait, elle fait des lasagnes.
Je comprends bien, mais elle prend des produits de base qu'elle contrôle, qu'elle va épicer, saler, etc. Les produits industriels, pour pouvoir avoir un goût, on a des exhausteurs, on a beaucoup de sel, on a beaucoup de gras. Et donc, on se retrouve sur un produit qui, d'un point de vue nutritionnel, n'est pas très intéressant. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je comprends que ça prend du temps, en effet, de faire la cuisine, etc. Mais on peut faire des plats simples. Voilà, on n'est pas tout chef cuistot. Hein. On peut faire des plats simples, préparer soi-même. Le but, c'est de contrôler un petit peu ce que l'on a dans sa cuisine et de faire au mieux pour toute sa famille.
Alors, on parlait de la crise de la vache folle, hein, qui a été le premier choc. On a ouvert la porte de l'industrie agroalimentaire. Le deuxième choc, vous savez, c'est cette association L214 qui a ouvert la porte de nos abattoirs. Et bien évidemment, ce sont des images qu'on ne veut pas voir, que personne n'a envie de voir. On les regarde. C'est une porcherie, un abattage de porc en Bretagne. On regarde cette vidéo courte, hein, de L214. Qu'elle est belle, il y a évidemment une mise en scène, mais est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène? Parce que d'un côté, quand on est consommateur, on veut le porc le moins cher et on ne veut pas voir ce qui se passe derrière.
Oui, je pense que c'est quand même le fait qu'on ne l'ait pas montré plus tôt, parce que ça, petit à petit, ça s'est mis en place, ça ne s'est pas mis d'un coup avec des élevages de ce type. Hein. Ça s'est fait progressivement, ça fait quand même 30 ans, 40 ans qu'on a ce système-là. Est-ce que le consommateur, il est schizophrène. Moi, je trouve pas qu'il... Il comprend les choses. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il est de plus en plus éduqué et il comprend ses choix. C'est sûr qu'un produit qui est moins cher, il y a une partie de la population qui ne peut pas payer plus cher. C'est-à-dire qu'on peut pas... Il y a ce discours depuis les États généraux où on dit il faudrait que les consommateurs payent plus cher leur alimentation. C'est juste que c'est pas possible parce qu'il y a le post-logement qui ne fait que croître et ça pèse de plus en plus chez les plus modestes. Donc, de toute façon, le modèle économique ne permet pas de faire autrement. Et puis, sur la question de reprendre la main et puis, en fait, de prendre plus de temps, c'est la même chose. Il y a l'argent, mais il y a aussi le temps. Et dans le temps, on a allongé le temps pour aller au travail. Donc, bien sûr, certains, mais il n'y a plus que les cadres qui ont du télétravail. Donc, il y a des inégalités qui font que les populations, d'ailleurs, qui sont le moins revenues à la cuisine, parce qu'en effet, parce qu'il y a eu toutes ces crises, on s'est mis à refaire de la cuisine, ce sont les plus modestes. C'est-à-dire que c'est tellement un avantage pour ces populations qui ont des difficultés de ne pas, en plus, pour la femme, faire de la cuisine, c'est elles qui ne vont pas revenir au fourneau. Donc, c'est vraiment une question de position dans la société, en fait. Hein. C'est question de prix, de faire la cuisine et de se préoccuper de sa santé.
Frédéric Dant, est-ce que ces images de L214, elles ont néanmoins modifié certaines habitudes alimentaires? Est-ce qu'elles font que certains disent « Ah ben moi, c'est fini ?»
Elle a confirmé des gens qui étaient déjà sur cette recherche-là. Ça reste marginal et je pense que ça le restera chez les plus pauvres.
On n'a jamais autant parlé quand même de la cause animale, au moins dans le...
Ça en demande beaucoup.
Oui, mais on projette beaucoup de choses sur la cause animale et on lui fait dire beaucoup de choses. Et là, ces images sont un prétexte pour L214 pour tenter d'arriver à l'abolition de l'élevage. Il y a une politique derrière. Est-ce que ça a changé les choses? Ça a changé surtout le regard qu'on porte sur les éleveurs. Moi, les éleveurs que je rencontre me disent qu'ils en ont ras-le-bol.
Ils sont furieux.
Ils sont furieux, ils sont insultés, ils en ont marre d'être assimilés à des assassins, alors qu'ils sont que des éléments d'un système qui leur échappe, qui appartient à la grande distribution, qui dicte les prix à tout le monde et qui fait que derrière, on a des abattoirs où les conditions de vie des employés font que les conditions de mort des vaches et des cochons qu'ils tuent sont épouvantables. Comment voulez-vous demander à des gens à qui vous soumettez, que vous soumettez à des cadences infernales pour même pas un SMIG, avec un mépris social, comment vous voulez leur demander qu'ils respectent les animaux jusqu'à leur mort, surtout le vendredi en fin d'après-midi? Souvent, les images filmées le sont le vendredi en fin d'après-midi, parce que c'est là où les gens ont ras-le-bol.
Donc ça, parce que c'est très difficile de travailler. Évidemment, dans ces élevages, on ressort de là.
Imaginez-vous égorger des cochons et des vaches à longueur de journée. Et en fait,
quand on est maltraité, on devient maltraitant. D'ailleurs, c'est souvent
classique.
Ce qu'on dit,
hein. C'est classique. Ouais. Après, on est une société qui prétend être propre en masquant le sale, tout ce qu'on ne veut plus voir, la violence, les déchets, les vieux, la mort, la souffrance et la viande. Et regardez même chez les bouchers. Moi, mon boucher encore, quand il vous sort un bout de viande, il le coupe lui-même, donc il y a du sang qui coule. Mais le boucher en face, il n'y en a plus, c'est dans des barquettes. Il n'y a pas de sang. On ne veut pas ramener la viande au vivant qu'il y avait derrière.
Faïza Bossi, est-ce que aussi, en industrialisant le vivant, on l'a fragilisé? Je vous pose la question parce qu'on est régulièrement frappé chaque année par ces abattages de canards à cause de la grippe aviaire. Est-ce qu'on a fragilisé les espèces à force de les optimiser?
La question elle est très pertinente. C'est vrai que la nature, c'est un système d'équilibre avec des écosystèmes différents. Si je prends par exemple l'être humain, nous-mêmes, on a une flore commensale, on a des bactéries en nous-mêmes, sur notre peau, dans le tube digestif, etc. Et à partir du moment où vous créez un déséquilibre, il va y avoir une lutte entre différentes bactéries, différents virus, etc. Vous créez des déséquilibres qui peuvent se réparer soit d'eux-mêmes, soit au contraire ne pas se réparer et aboutir, en effet, à un germe qui va ressortir, une pathologie qui va ressortir. Alors oui, on joue avec la nature, mais depuis des siècles et des siècles, et c'est pas nouveau. Après, il faut savoir jouer avec tact et mesure. Et pour que ce soit...
C'est la diversité qui vous renforce, c'est pas l'uniformité la race de canard parfaite pour faire du foie gras.
Bien sûr. La diversité, la mixité est véritablement une chance. Uniformiser le côté unique, non, c'est pas...
Est-ce que, du coup, toute cette filière agro-industrielle, elle se pose de sacrées questions sur son avenir et sa façon de travailler?
Oui, bien sûr. Alors, c'est surtout les agriculteurs qui, en effet, sont montrés du doigt. Et c'est plutôt l'agriculture, d'ailleurs, parce que, au contraire, les consommateurs, ils ont un affectif très, très fort par rapport aux producteurs qui sont sur la terre. Et sur l'agro-industrie, ils ont des grosses difficultés parce qu'en effet, ils sont montrés du doigt, ils n'arrivent plus à recruter. Et il y a une pression quand même, il faut le dire, par la grande distribution qui en France est très concentrée et ils font un peu moins de marge que dans d'autres pays. Et ils sont pris entre plusieurs feux et ils ont à, en effet, défendre leur image. Et en France, plus qu'ailleurs, en effet, on critique aussi toute la partie trop industrielle. On a envie de... Parce qu'on fait la cuisine, en effet. On consomme...
Ailleurs, aux Pays-Bas, on se pose moins de questions.
Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'on est moins... D'ailleurs, on est moins sur la qualité de ce qu'on mange.
Et
en
la
fait. Ce qui compte, c'est le prix.
Ah oui.
En Allemagne, dans les pays, aux Pays-Bas. Hein, et puis, alors, on a une alimentation très fonctionnelle, alors, surtout aux Pays-Bas, où ce qui compte, c'est de se nourrir sans forcément avoir ce côté de partage, ce côté plaisir. Donc il y a en France, c'est ce qui finalement maintient un petit peu cette diversité. Vous avez raison, hein, ce qui compte, c'est de manger plusieurs choses. Mais c'est vrai que de pas être obligé de le faire tous les jours, ça aide aussi. Hein, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Tout le monde a été obligé de faire 3 repas par jour. Et on voit bien qu'on est revenu très, très vite à tout ce qui était tout prêt ou à se faire livrer des repas chez soi parce qu'on ne peut pas s'inventer tous les jours très créatif.
Donc, si j'ai bien compris, bien manger, non seulement on se fait plaisir, mais c'est mieux manger en plus. C'est meilleur pour la santé, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors justement... La filière agroalimentaire qui se pose des tas de questions et en ce moment, tout le monde se transforme pour aller vers le bio, la culture bio, sans pesticides, retrouver le goût et des produits de saison. Sauf que le bio, eh bien, les ventes sont en baisse et le marché qu'on croyait promis un bel avenir est en train de se... Alors, est-il en train de se retourner, en tous les cas? Je vous propose d'écouter ce sujet avec des éléments de réponse d'Hugo Capelli.
Avec le Covid, nos modes de consommation auraient-ils changé? Les chiffres montrent que les Français semblent désormais privilégier le local plutôt qu'un produit labellisé bio. En fait, c'est la proximité qui est plébiscitée par les consommateurs.
Les produits se conservent mieux lorsqu'on les achète au marché qu'en grande surface. Donc déjà, ils ont pas vécu les transports de plusieurs jours.
L'appellation bio d'un supermarché, c'est un peu plus une démarche marketing pour moi qu'une démarche réelle.
D'ailleurs, Là où les ventes de bio ralentissent, c'est surtout dans les grandes surfaces, moins 3% par rapport à 2019. En France, le bio pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros.
Alors Pascal Hébel, comment l'expliquer ce reflux du bio ?
Alors c'est vraiment parce qu'il y a eu cette envie de consommer local. Donc c'est bien parce qu'il y a une souveraineté et qu'on s'est dit, finalement, on nous a nourris pendant les confinements, donc on veut aller vers le local. Et il y a sans doute le fait qu'en effet, comme on a eu une démocratisation du bio, en fait, ça fait une croissance, on était à 10 à 15% par an depuis une dizaine d'années, il a été vendu dans des grands hyper et il venait d'ailleurs. Hein, il venait de
très Kiwi, de Nouvelle-Zélande.
Voilà, ou d'Afrique du Sud. Voilà, et c'est vrai que c'était réservé au début à des militants qui, en effet, c'était du local, c'était des magasins spécialisés. Et puis, une fois que tout le monde, parce que l'affectif par rapport au bio, il est énorme. 75% des Français en achètent et on a envie d'en consommer plus. Donc, sans doute qu'ils ont un peu aussi, pendant quelques années, eu ces croissances très fortes. Ils ne se sont pas trop questionnés, notamment sur le bien-être animal, parce qu'en effet, les gens veulent des animaux qui soient bien pris en charge, etc. On ne veut pas de porc castré, on ne veut pas d'antibiotiques. Donc, ils ont pas forcément pris en compte toutes les attentes des consommateurs, parce que tous ces nouveaux sujets font qu'on demande de plus en plus de choses, pas de plastique. En fait, il y a eu un vrai problème sur les produits bio, c'est que parce qu'il y avait de la fraude, parce que soi-disant les gens les prenaient, les échangeaient, ils étaient sous plastique. Et comme avec les sujets très très vastes sur la biodiversité, le sujet plastique est arrivé, ils n'avaient pas tous les codes pour ces attentes des consommateurs.
Ça choque toujours de voir un concombre bio vendu dans un plastique, parce qu'on se dit, il a déjà une peau naturelle, le concombre. Qu'a-t-il besoin de plastique ? Pourtant, si.
C'était pour le différencier, en fait, dans les rayons, pour pas que, par rapport au standard, le prix. Ouais. Alors voilà, et vraiment, le facteur très important, c'est l'écart de prix. C'est 50% de différence.
Ah oui, c'est plus. Alors que le local a des prix plus abordables, le bio, lui, est tout de suite.
Tout à fait. Et comme il y a une vraie question de pouvoir d'achat, parce que le prix de l'énergie augmente, là, c'est ceux qui en achetaient, qui étaient des classes moyennes, ne peuvent plus en acheter.
Alors, Frédéric Danhé, acheter bio, à qui faire confiance ? C'est quoi le problème avec le bio ? Est-ce que vous lui prédisez un bel avenir ?
Non. Ce que j'avais dit dans ce bouquin et dans celui d'avant, que le bio, l'arrivée à un étiage, on y est, parce qu'il ne s'est pas renouvelé, parce que surtout, on a projeté sur le bio toutes nos frustrations par rapport au conventionnel. Donc, on demande au bio de protéger la planète, de protéger les animaux, de protéger les sols, de nous garantir notre santé. On lui demande la même promesse de santé qu'on a demandé à l'industrie dans les années 60, et ces promesses ne peuvent pas être tenues. On se rend compte aujourd'hui, nonobstant le prix, qui est, je pense, le facteur le plus important qui explique la stabilisation du marché du bio, on se rend compte que le bio, sur les sols, c'est pas terrible, sur la biodiversité, il n'y a rien dans la charte, qu'il y a quand même des pesticides autorisés qui sont considérés comme des neurotoxiques à la directive REACH à l'Union européenne. Le bio ne correspond pas du tout, ne correspond plus aux attentes des gens. Et puis le bio, on a beau être bio, pour une bactérie, c'est pareil. Vous l'avez dit, en 2011, c'était des graines germées bio qui ont généré 4531 contaminations, 50 morts. Donc le bio, il faut qu'il se renouvelle, il faut qu'il arrête de prétendre qu'il va sauver la planète, qu'il va sauver notre santé. Juste une chose, la bouffe, je parle bien du terme bouffe, c'est avant tout une symbolique, c'est un lien social. Et on a confiance en la personne qui produit ou la personne qui distribue, mais qu'on connaît, qui est au bout de la rue. Et un producteur en conventionnel qui a cueilli ses carottes la veille et qui l'amène sur le marché le lendemain, ses produits ont plus de qualité nutritionnelle qu'une carotte bio qui a été congelée, mise au réfrigérateur pendant 3 semaines.
Faïsa Bossi, Pascal Hébel parlait des antibiotiques qu'on donnait régulièrement aux bêtes. Pourquoi le fait-on ? C'est parce qu'on a fragilisé les espèces, comme on disait, ou bien c'est parce que, là encore, c'est zéro problème, antibiotiques pour tout le monde, les bêtes tomberont pas malades ?
Alors, il y a des pays qui utilisent à large spectre les antibiotiques. On va parler, par exemple, des États-Unis, où les poules, les bovins sont tous sous antibiotiques. Alors, pour des règles hygiénistes et aussi parce que l'industrie agroalimentaire a été aux États-Unis largement impactée dans les années 90 après des scandales sanitaires. Et puis aussi à les conditions d'élevage. Si vous mettez 30 cochons dans 10 mètres carrés au lieu de 30 cochons dans une prairie, c'est pas du tout les mêmes conditions.
Il y en a qui sont malades.
Voilà, donc c'est un principe de prévention. Les animaux sont surveillés par les vétérinaires, etc. Ils sont soumis aussi à des normes d'hygiène. Mais on est confronté évidemment à ces antibiotiques qui vont arriver. Ça peut générer des antibiorésistances nous concernant. Donc voilà, on est encore sur un système d'équilibre, déséquilibre, etc. de façon permanente.
En tous les cas, vous nous avez dit non au plat industriel, oui à la cuisine, au fait maison. Eh bien, regardez, du coup, même quand on est nul et qu'on ne sait pas cuisiner, on peut cuisiner, faire maison grâce aux robots dont les ventes explosent. Regardez ce sujet de Saada Souban.
Et une cuillère à café du sel.
C'est l'objet central de la cuisine de cette famille parisienne, un robot cuiseur haut de gamme. Au menu ce soir-là, pizza faite maison.
Un petit peu parce que sinon après, la balance, voilà, dans la balance qui va être un peu faussée, vas-y.
Depuis 6 ans, la famille François cuisine presque exclusivement grâce à son robot ménager. Ludique pour les enfants, mais surtout très pratique pour la mère de famille.
Au milieu, c'est comme... Je n'ai pas une très grande cuisine. Et je cumulais un grand nombre d'autres robots. Hein. Mais là, c'est un sort de condensé en un.
Plus de 2 millions de foyers français possèdent ce modèle. En magasin, ils sont nombreux à promettre de cuisiner à votre place. Rouge, gris, blanc, de toutes les tailles, en inox ou en plastique. Ici, il s'en est vendu jusqu'à 54 unités en un mois, un record national.
Alors Pascal et Belle, vous y voyez une vraie tendance ou un effet de mode dû au confinement d'ailleurs, parce qu'on était chez soi, on n'avait pas grand-chose à faire.
Non, il y a vraiment eu une inversion de tendance, mais en fait qui s'est plutôt faite en 2008, à un moment où justement on était, les trois quarts des Français ont très très peur de ce qu'ils mangent, et donc on a voulu reprendre la main sur ce qu'on avait dans notre assiette. Et comme il y a eu en plus une inflation, ça s'est mis en place. Après, ça a diminué, c'est revenu dans les confinements. Et là, je pense que ça a un peu baissé, mais ça va revenir parce qu'il y a une inflation. Donc non, c'est quelque chose qui pèse pas tant que ça, en fait, hein, parce que le faire tous les jours... Donc c'est revenu parce que c'est aussi revenu quelque chose comme un loisir. C'est-à-dire que les hommes se sont mis à le faire et apprendre, faire des ateliers cuisine, apprendre à montrer à ses convives qu'on est doué, en fait. Ça s'est beaucoup diffusé dans certains milieux. Toujours la même chose, dans les parties de la population qui s'intéressent beaucoup à sa santé, qui s'intéresse beaucoup à l'écologie et qui s'intéresse à montrer, à bien manger et qui invite du monde chez soi. Donc c'est plutôt des catégories très diplômées qui ont les moyens d'aller jusque-là.
Il n'empêche, Frédéric Danlé, ça vous frappe le succès des émissions de cuisine à la télévision? Non, c'est nouveau quand même.
En fait, il y a eu une déculturation culinaire et gastronomique qui a été en partie rompue par l'arrivée de ces émissions, qui ont redonné confiance aux gens en voyant à la télé ce qu'ils voyaient faire à leur grand-mère, grand-mère que leur grand-père. Dit, ah bah oui, c'est vrai, ma grand-mère, c'est pareil, donc je peux le faire. Moi, je le prouve tous les jours à mes enfants. J'ai pas de robot, là, mais moi, je suis un peu pathologique. Je suis une vraie mère juive. Mon rôle de père, c'est de faire à bouffer. J'ai toujours fait à manger tous les jours avec des produits bruts. Moi, je le fais. Mes enfants l'ont vu. Et j'ai connu, pendant le premier confinement, voilà, la charge mentale dont me parlait ma mère, c'est-à-dire faire à manger, famille recomposée à 8 tous les jours. Je n'en pouvais plus, Axel, je n'en pouvais
plus. Avec les devoirs en prime.
Avec les devoirs en prime, parce que c'est dur de trouver des idées. Non, il y a une vraie tendance. Et effectivement, le robot permet de faciliter le retour à la cuisine des gens qui pensaient que c'était compliqué.
Pascal et Belle, avec ces plats industriels décriés et la mode du fait maison, est-ce qu'il n'y a pas une impasse, pour une fois de plus, pour les géants de l'agroalimentaire? On parlait de Nestlé tout à l'heure, qui possède Buitoni. J'ai vu que Nestlé avait vendu Herta, qui est pourtant le leader de la charcuterie industrielle. Ils ont vendu la mythique purée mousseline de notre enfance. Mais qu'est-ce qu'on va vendre, alors, si on n'a plus ces grandes marques iconiques qu'on mettait au micro-ondes et hop, on avait le plat en 2 minutes?
Non, ce qu'il y a, c'est que, en fait, quand on refait de la cuisine, on n'est plus sous Jean-Pierre Coff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du Cyril Lignac, qu'on fait de l'assemblage. C'est-à-dire que la pâte à pizza, on l'achète toute faite et on fait de la cuisine en mettant quand même des choses qui simplifient les choses. Donc, ils se sont mis à y mettre, ils vendent
des ingrédients.
Les ingrédients. Après, ce qui marche pas bien, c'est en effet tous les produits sur lesquels on a montré que scientifiquement, il fallait en manger moins, et c'est le cas de la charcuterie, parce qu'il y a des risques pour les cancers, la viande rouge, etc. Donc, ils sont obligés d'aller vers des axes, et ils vont sur les jus végétaux, sur toute la tendance de manger plus végétalien, plus de végétal. Et donc, on voit bien que toute la partie plat, tout près végétarien, marche bien.
En tous les cas, ces géants de l'agroalimentaire, ils ont toujours une force d'attraction hors du commun. Je vous propose en avant-première de voir un extrait de l'émission Cash Investigation. C'est un extrait qui passe de ce soir, qui montre que, y compris en matière alimentaire, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a dans l'assiette, c'est l'emballage. Regardez cet extrait de « Ça se passe comme ça » chez McDo. C'est une enquête de Zoé Buissière, donc pour Cash Investigation. Des enfants vont se voir proposer le même déjeuner, mais avec des emballages différents. Et vous allez voir comment ils réagissent. On regarde.
D'un côté de la table, il y a les chanceux. Sous leur nez, une boîte Happy Meal de chez McDonald's. Pour les autres, un repas dans un petit carton tout simple.
Merci.
Ouais. Visiblement, il y a des déçus.
Théo, je vais te poser une question. Est-ce que tu serais OK pour échanger ton repas contre celui d'Ephraïm, par exemple ?
Non.
Ah non ? Et toi, Éléonore ? Est-ce que tu es prête à l'échanger ?
Non.
Non, pas trop. Et vous, les garçons, est-ce que vous voudriez échanger ?
Oui.
Toi, Noah, t'aimerais bien donner le tien et avoir un de ceux-là ? Et ceux qui ont préféré garder là, ce repas-là, pourquoi vous préférez garder celui-là ?
Parce que c'est McDonald's.
Ouais.
Et on aime bien, nous.
Le McDo, en fait, il va y en avoir pour tout le monde. L'autre boîte, il va y en avoir pour tout le monde. Vous allez goûter les deux et vous allez me dire ce que vous en pensez.
En fait, nous avons tout acheté chez McDonald's. La moitié des menus reste dans la boîte d'origine et nous avons emballé l'autre moitié dans des paquets neutres. Les enfants sont donc en train de manger, sans le savoir, deux fois la même chose. C'est le moment du verdict. Les enfants auront-ils décelé une différence de goût entre les deux repas ?
Alors, laquelle tu as préférée ? Celle-ci ? Quel est le menu que tu as préféré ?
Le McDo.
Celui-là ?
Oui.
Raconte-moi pourquoi.
Parce que c'est celle que j'ai d'habitude.
Allez, pourquoi ? Comme nous sommes sympas, nous finissons par révéler la vérité à nos petits copains.
C'est dingue, non ?
Dingue, la puissance du marketing, hein ? Non ?
Oui, oui, alors le marketing, il s'est construit au cours des ans, et évidemment, c'est ça qui agit, c'est le symbolique, la couleur, le fait qu'on a retenu la marque.
Et le principe, d'ailleurs, de mettre des petits jouets dedans, je crois qu'aux États-Unis, c'est plus ou moins interdit, parce qu'en fond, on s'est rendu compte que les enfants... acheter un produit non pas pour le manger, mais pour le jouet qui était associé
après,
avec.
Bien sûr, c'est vraiment, ça attire. On met aussi des stars.
On va pas réaccuser Kinder Surprise parce que déjà ils ont des problèmes de.
Tout à fait, mais c'est le même mécanisme.
Mais c'est le même mécanisme. Hein, on achète pour la surprise et pas pour le Kinder. Ouais. Faïza Bossi, d'un point de vue, pourquoi est-ce que c'est. Écoutez, c'est quand même bon un burger. Voilà, et vous, voilà, vous faites la tête. Pourquoi ?
Il y a de très bons burgers faits au restaurant.
Votre regard de nutritionniste sur le burger.
Non, un burger bien préparé avec une bonne viande, un bon pain, etc. Oui, après de la marque McDo, non.
Et pourquoi ? Parce que c'est du gras sucré, en fait,
oui,
c'est la satiété, et on a refaim. Quels sont les, en quoi, de façon nutritionnelle ?
Le pain est extrêmement sucré, la viande, elle est recomposée, elle est très salée. Enfin, c'est, d'un point de vue nutritionnel, non, vous avez faim après, au bout d'une ou deux heures. La sauce tomate n'est pas une sauce tomate, avec tout le respect que je vous dois. Bon, voilà, je suis désolée de ces critiques, mais sur le plan nutritionnel, c'est pas bon. Ce qui est intéressant, vous parlez de marketing.
Ouais.
Ce marketing, il est surtout basé sur une étude scientifique de comment on fait pour se mettre en disposition de manger. Un exemple tout simple, si vous sortez un plat du four à micro-ondes que vous asseyez et que vous mangez, vous n'avez même pas le temps de comprendre que vous allez manger et vous allez avoir faim quelques temps après. Si par contre, vous vous mettez à faire la cuisine, donc là, vous vous dites, je suis en condition de me préparer pour manger. Vous avez une sécrétion de sucre gastrique. Neurologiquement, vous êtes préparé pour... C'est pas du tout la même démarche. Donc le marketing, il est aussi basé sur les notions scientifiques, digestives, neurobiologiques que l'on a à se mettre en disposition. Je mets une jolie couleur sur une belle table, c'est plus sympa.
C'est vrai que le sentiment de satiété, il vient après avoir déjeuné et donc il faut attendre un petit peu, sinon on a tendance à...
Ouais. Si vous sortez le plat du four à micro-ondes, la livraison par exemple, pour moi c'est une catastrophe.
Alors oui, c'est vrai que c'est la mode maintenant, les jeunes, ils commandent sur Internet. Alors,
et... non simplement, vous ne faites pas la démarche d'aller chercher le plat, donc d'un point de vue sportif, c'est quand même un peu nul. Le plat arrive directement chez vous, vous le passez au four à micro-ondes ou au four, donc même pas le temps de se dire que vous avez préparé quelque chose.
c'est hallucinant. Étude irlandaise faite il y a 15 ans qui a montré une corrélation entre le taux de livraison très important des repas et le surpoids chez les enfants.
Pourtant, Frédéric Danhé, on critique la malbouffe, on n'arrête pas de parler d'engagement responsable. On sait, mais même chez McDo, ils essaient de faire des efforts avec le quartier de pommes.
Oui, et puis ils soutiennent, il faut reconnaître, des éleveurs. Le lait de leur dessert, c'est du lait bio qui vient de la coopérative Biolay. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors la livraison, en plus, il y a l'impact social qui est désastreux.
Ouais.
En tout cas, ça montre que l'aspect de la nourriture est important. Entre une carotte bouillie et une carotte qui était cuite au beurre pendant 10 minutes, les enfants ne mangent pas la même chose.
Mais mangez bien, c'est manger mieux, moi, c'est ce que je retiens surtout.
Oui,
Cash Investigation, ce soir, ça se passe comme ça chez McDonald's, 21h05 sur France 2. Si vous voulez revoir l'extrait, c'est déjà disponible sur le site de France Télévisions. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.